VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous, il est 19h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. En République démocratique du Congo, la coalition au pouvoir estime que l'opposant Jean-Pierre Bemba est inéligible pour la présidentielle. Dernière ligne droite au Mali, la population vote ce dimanche pour élire un nouveau président.
Et ma motivation pour les candidats, c'est de quelqu'un d'honnête, de sincère, respectueux, qui est prêt à faire sortir le Mali dans cette galère.
En Côte d'Ivoire, l'acquittement de Simone Gbagbo cassé par la Cour suprême du pays. Et Donald Trump dément avoir donné son feu vert à une réunion controversée avec une avocate russe. Dans la Minute Écho, le cours du cacao recule à Londres et une nouvelle journée de la Ligue des champions en Afrique dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Les Maliens votent pour élire leur président ce dimanche. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta brigue un second mandat face à 23 autres candidats. La campagne qui se termine ce vendredi soir est marquée par le mécontentement face à l'insécurité, notamment dans le centre et le nord du pays où des groupes islamistes armés continuent de sévir. De Bamako, notre envoyé spécial Jacques Aristide.
Ce sont plus de 8 millions de Maliens qui sont appelés aux urnes ce dimanche. Dans la capitale, les Bamakois ne semblaient pas être gagnés par la fièvre électorale en ce dernier jour de campagne. Il reste que pour des observateurs, il s'agit d'une élection cruciale mais aussi à haut risque, avec comme principal enjeu la sortie de crise, une crise qui traîne les séquelles du coup d'état militaire de 2012 contre Amadou Toumani Touré, découlant notamment de l'insurrection Touareg du Mouvement National pour la Libération de l'Azawad et des djihadistes d'Ansar Dine. Il n'y a rien que quelques jours, des affrontements ont à nouveau éclaté à Tombouctou dans le nord entre communautés arabes, Touareg et Noirs. Dans le centre, ce sont les ethnies Dogon et Peul qui s'entretuent. Dans un entretien à VOA Afrique à Bamako, le directeur général de l'administration du territoire affirme que toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement du vote face au péril que le gouvernement veut annihiler, d'après Souleymane Amadou Sangaré, qui assure par ailleurs que la livraison des cartes d'électeurs a atteint un niveau satisfaisant. Il affirme également que la liste électorale utilisée pour émettre ces cartes a fait l'objet d'un audit indépendant rejetant les accusations de l'opposition quant à une éventuelle fraude électorale. De Bamako au Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, les partisans du président congolais Joseph Kabila ont mis en cause l'éligibilité de Jean-Pierre Bemba, qui annonce son retour mardi dans le pays pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Jean-Pierre Bemba pourrait tomber sous le coup de l'article 10 de la loi électorale. Les personnes condamnées pour corruption sont inéligibles. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la majorité présidentielle, Alain Atundu, devant la presse. Le gouvernement de Kinshasa revient sur sa décision de restreindre les visas aux Français et aux Belges. Décision rendue publique quelques heures plus tôt par le ministre en charge des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga. Les détails avec Thierry Kambundi de Tom Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Tenant compte du dialogue en cours, notamment sur le traitement des dossiers de visa, les instructions relatives au principe de réciprocité sont retirées, pouvait-on lire dans un communiqué destiné aux ambassadeurs congolais signé jeudi par le ministre en charge des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga. Un communiqué qui contredit un autre signé par le même ministre 48 heures plus tôt et qui disait, je cite, « Il est constaté de manière non équivoque que les ambassades de Belgique et de France n'accordent plus que des visas humanitaires ou pour soins médicaux aux ressortissants congolais depuis la fermeture de la maison Schengen. Il est demandé à toutes nos représentations diplomatiques d'appliquer les mêmes dispositions par principe de réciprocité. » Fin de citation. Deux messages contradictoires qui ont valu de nombreuses critiques au ministre Emmanuel Ilunga, mais qui laissent transparaître clairement la volonté de Kinshasa et de Bruxelles de normaliser leurs relations diplomatiques rompues depuis janvier dernier, entraînant notamment la fermeture de la maison Schengen à Kinshasa. Et pour confirmer ce début de normalisation, le chargé d'affaires de Bruxelles à Kinshasa affirmait récemment que les canaux de communication entre la Belgique et la RDC étaient grands ouverts et qu'un dialogue était en cours. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et République démocratique du Congo toujours, hein. Le procureur de Goma, Dauphine Mawasso, a classé sans suite l'enquête sur la mort d'un activiste pro-démocratie dans l'incendie de sa maison. Luc Nkulula, militant du mouvement Lucha, est mort dans l'explosion d'une batterie selon l'enquête du parquet de Goma. Par ailleurs, 5 personnes sont décédées dans un crash d'avion ce vendredi. L'appareil de la compagnie Air Kasaï s'est écrasé après son décollage de la ville de Kamako, dans le sud du pays, alors qu'il devait relier Chikapa à 150 km plus au nord. Le bilan des morts est provisoire. Ce crash est le deuxième en un mois au Kasaï. En Centrafrique, une semaine après son retour au pays, le président de l'Assemblée nationale brise le silence. Abdou Karim Mekassa a dénoncé des complots visant à le destituer. Absent du pays pendant près de 4 mois pour des raisons sanitaires, le chef du Parlement a été plusieurs fois accusé d'actes visant à déstabiliser le pays. Abdou Karim Mekassa.
En mon absence, qu'est-ce que vous n'avez pas entendu ? On vous a dit que j'avais fui le pays par peur d'être arrêté ou par peur d'être destitué. Que j'étais allé préparer un coup d'État. Que j'étais parti en détournant l'argent de l'Assemblée nationale. Que, de loin, j'ai financé les opérations de déstabilisation du régime. On a même été jusqu'à annoncer que j'étais mort. Jusqu'à présent, j'ai gardé le silence, non pas par faiblesse d'esprit, chers compatriotes, croyez-le bien, mais parce que je crois dans les vertus du dialogue, parce que j'estime que c'est mon métier d'homme d'État d'apaiser les tensions.
C'était le président de l'Assemblée nationale à Bangui au micro de Freeman Sipila. Et la Cour suprême de Côte d'Ivoire a cassé le jugement d'acquittement de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Elle a renvoyé Madame Gbagbo devant une autre cour d'assises sans donner de délai. Les motivations de la décision de la Cour n'étant pas connues dans l'immédiat. Simone Gbagbo n'avait pas été libérée après son acquittement. Elle purgeait déjà et purge encore une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, prononcée en 2015.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité dans le reste du monde, aux États-Unis, augmentation de plus de 4% de l'économie au deuxième trimestre 2018. Une performance historique pour le président Donald Trump. Et le président américain qui dément une nouvelle fois avoir eu préalablement connaissance d'une réunion pendant la campagne présidentielle entre son fils Don Jr. et une avocate russe offrant des informations compromettantes sur Hillary Clinton. C'est pourtant ce qu'affirme l'ancien avocat de Donald Trump. Les détails avec Nicolas Pineau.
Michael Cohen, l'ex-avocat personnel du président, qui est tombé en disgrâce et multiplie les révélations gênantes pour son ancien client, affirme que ce dernier a approuvé la tenue de cette réunion le 9 juin 2016 à la Trump Tower à New York, siège de la campagne de Donald Trump. « Je ne savais rien de la rencontre avec mon fils Don Jr. », affirme pour sa part le président américain sur Twitter. Il accuse Michael Cohen d'inventer des histoires pour se tirer d'une sale affaire qui n'a rien à voir. Le président américain a toujours dit ne rien avoir su à l'époque de cette réunion, dont l'existence est avérée et pour laquelle Donald Trump Jr. a été entendu devant le Congrès. La campagne Trump, elle, en a toujours minimisé la portée. La révélation 9 mois après le scrutin de la tenue de cette rencontre avec une jeune femme soupçonnée d'être proche des services de renseignement russes avait fait l'effet d'une bombe dans le contexte d'une enquête fédérale sur une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou, des soupçons qui empoisonnent la présidence américaine. Le procureur spécial Robert Mueller mène une enquête pour établir s'il y a eu une collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2016.
Et Israël a rouvert vendredi les accès à l'explanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem après avoir bouclé le site plusieurs heures. C'était en raison des heurts entre fidèles palestiniens et forces de l'ordre israéliennes après la prière du vendredi. Abdourahman Dia.
Le site a été fermé pendant environ 4 heures avant d'être rouvert. Selon la police israélienne, des heurts ont éclaté après la prière du vendredi quand des émeutiers ont commencé à lancer des feux d'artifice vers la police. L'autorité religieuse musulmane en charge du site historique avait confirmé que les accès à l'esplanade sur laquelle se trouve notamment la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, avaient été fermés. Elle avait publié des images vidéo montrant les forces de police lancer des grenades lacrymogènes pour disperser des Palestiniens. L'esplanade des mosquées ou mont du Temple pour les Juifs est un point de friction fréquent entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. Elle est située à Jérusalem-Est, dans la partie palestinienne de la ville sainte, occupée et annexée par Israël. En juillet 2017, la décision israélienne d'installer des détecteurs de métaux pour contrôler les accès à l'esplanade avait provoqué plusieurs semaines d'émeutes. Dans le même temps, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé ce vendredi la construction de 400 nouveaux logements dans la colonie de Cisjordanie occupée, où un Israélien a été tué la veille par un assaillant palestinien. Pour lui, c'est la meilleure réponse au terrorisme.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et l'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Irénée Ongbo.
Un forum économique ivoire au Burkinabé s'est tenu jeudi à Yamoussoukro sous la présidence des deux premiers ministres. De 2013 à 2017, les échanges commerciaux entre ces deux pays sont passés de 255,567 milliards de francs CFA à 319,741 milliards de francs CFA, soit une hausse de 25% selon le ministre ivoirien du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME. À Londres, le cacao a touché jeudi 1668 livres sterling à son plus bas depuis un mois et demi, tandis que la cotation de New York a atteint mercredi jour 2233 dollars, son plus bas en près de 5 mois. Les analystes gardent un œil sur la météo en Afrique de l'Ouest, d'où provient 60% de la production mondiale. Si la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, décide de ne pas relever ses prix pour refléter la baisse des cours internationaux, le marché pourrait être en déficit car les fermiers ivoiriens produiront moins alors même que la demande mondiale est robuste, ont prévenu les analystes de Rabobank. Au Cameroun, en signant un nouveau partenariat le 26 juillet avec Express Exchange, une société de droit camerounais spécialisée dans le transfert d'argent, WorldRemit, leader du transfert d'argent digital, a révélé que 25% des transferts d'argent vers le Cameroun via ces plateformes proviennent de la diaspora domiciliée aux États-Unis. Ali Dangote, industriel nigérien, a reçu un prêt de 650 millions de dollars d'Afreximbank pour financer un projet dans le but de booster ses actifs en mettant un frein aux importations de pétrole raffiné. Il espère ainsi ne plus tomber dans les pénuries de carburant.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Nicolas Pino.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Nouvelle journée de Ligue des Champions en Afrique.
Les Zambiens du Zesco United en déplacement chez le Primero de Agosto en Angola. Difa El Jadida du Maroc face à Sétif, c'est un club algérien. Les Tunisiens de l'Étoile Sportive du Sahel qui accueillent Mbabane du Swaziland. Les Mamelodi Sundowns qui reçoivent l'AS Togo Port. Et la suite demain, Camp à la City face à l'Espérance de Tunis. Township Rollers du Botswana face à Al Ahly. Le Mouloudia Club d'Alger face au tout-puissant Mazembe. Enfin, le Wydad de Casablanca qui accueille Oroya de Guinée.
Et retraite sportive pour le gardien nigérian Ikemé.
Le gardien international de Wolverhampton, Carl Ikemé, 31 ans, a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel après avoir lutté pendant des années contre une leucémie aiguë. Le mois dernier, Ikemé avait déclaré que sa maladie était en rémission totale, mais qu'il était trop fragile pour poursuivre sa carrière. Depuis 2003, il a disputé plus de 200 matchs, notamment en deuxième division anglaise, avec Wolverhampton, promu en première ligue cette saison. Ikemé, c'était aussi un joueur de l'équipe nationale nigériane, avec 10 sélections entre 2015 et 2016. Lors du Mondial 2018, il avait été nommé 24e joueur des Super Eagles à titre honorifique.
Et la suite des ennuis judiciaires de Cristiano Ronaldo avec le fisc espagnol.
La star devra bien payer près de 19 millions d'euros au fisc espagnol pour mettre fin aux poursuites d'évasion fiscale le visant. C'est ce qu'annonce le parquet de Madrid. Le préaccord conclu le mois dernier et officiellement entériné par le fisc prévoit également une peine de prison de 2 ans que Ronaldo ne purgera pas. Les peines allant jusqu'à 2 ans de détention n'étant généralement pas appliquées en Espagne. L'ancien crack du Real Madrid de 33 ans vient de s'engager, vous le savez, avec la Juventus Turin pour 4 ans.
Nicolas, on finit par de l'athlétisme.
Nairobi organisera en 2020 les championnats du monde d'athlétisme des moins de 20 ans. Selon la Fédération internationale d'athlétisme, le Kenya avait déjà organisé les mondiaux des moins de 18 ans en 2017.
Merci Nicolas Pinot.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Le Mali élit son président ce dimanche. La campagne électorale prend fin ce vendredi. Un scrutin aux enjeux cruciaux liés principalement à l'insécurité dans le nord du pays et aux violences intercommunautaires dans le centre. De Bamako, notre envoyé spécial, Jacques Aristide.
C'est une campagne jugée terne qui se termine ce vendredi soir. Les Bamakois vaquent à leurs occupations habituelles, des activités ralenties par les sempiternels embouteillages. Nous sommes ici à la place Cannes ACI 2000 où sont installés les quartiers généraux de plusieurs candidats, des candidats au nombre de 24 dont une femme qui tente de mettre les bouchées doubles pour séduire l'électorat en cette dernière ligne droite.
Pour aller voter Dimas, c'est pour le travail de jeunes et de sécurité du Mali et de la paix au Mali.
Et ma motivation pour les candidats, c'est de quelqu'un d'honnête, de sincère, respectueux, qui est prêt à faire sortir le Mali dans cette galère, qui est prêt à faire sortir la jeunesse dans le chômage et qui est prêt à mettre le pays dans la sécurité.
Les enjeux sont certes importants. Sékou Tangara est directeur de l'information à Africable Télévision.
Pour moi, il n'y a pas deux enjeux, il y en a un seul, la sortie définitive de crise, fermer la parenthèse de la crise multidimensionnelle que le Mali a connue à la faveur du coup d'État de 2012, puisqu'on a l'impression que la transition continue toujours.
L'opposition dénonce un risque de fraude dû d'après elle aux listes électorales utilisées pour émettre les cartes d'électeurs, une procédure qui a donné lieu à des doublons, mais le gouvernement dément et insiste pour dire qu'il n'y a qu'un fichier électoral et pas deux. Souleymane Amadou Sangaré, directeur général de l'administration du territoire.
Le fichier électoral qui a fait l'objet d'audits par l'Organisation internationale de la francophonie, c'est ce fichier électoral qui a servi à imprimer les cartes d'électeurs en République du Mali. Donc je ne vois vraiment pas de doute par rapport au fichier, au seul fichier qui est en République du Mali.
Les autorités donnent également des garanties au niveau de la sécurité qui va être assurée, disent-elles, lors du vote de dimanche. Les forces de sécurité vont déployer des éléments additionnels.
En le faisant, le gouvernement sait les périls auxquels il est appelé à faire face. Cela veut dire que les dispositions sécuritaires vraiment sont prises. Que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, l'État malien est conscient vraiment de ses responsabilités en matière sécuritaire. Soyez tranquille par rapport à cet aspect.
Les premiers résultats provisoires devront être connus mardi, mais des retards ne sont pas à écarter d'après des observateurs. Un éventuel second tour est prévu pour le 12 août. Jacques Aristide, VOA Afrique, Bamako, Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24. Et en Ouganda, l'opposition est vent debout. Elle dénonce la suppression par la justice de l'âge limite fixé à 75 ans pour être candidat à la tête de l'État. Pour elle, le président Yoweri Museveni s'achemine vers une présidence à vie. Joint par Bagassi Koura, Kibel Beloka, directeur de publication du journal Les Coulisses dans l'Est de la RDC, explique que Museveni bénéficie d'une bonne popularité au sein des couches rurales.
Le président Museveni se considère comme le sauveur de l'Ouganda. C'est lui qui a mis l'économie de l'Ouganda sur les rails, notamment l'autoroute entre la capitale Kampala et l'aéroport de Ntebe. Donc ça ne peut pas surprendre.
Il a profité d'une certaine popularité alors?
Bon, effectivement, derrière du pays, dans des villages, il a quand même une popularité par rapport aux opposants. Il a quand même, comme je l'ai dit, remis l'économie de l'Ouganda sur les rails. il a des projets qu'il lance. Il n'a pas encore un répondant comme ça au niveau des populations rurales. En tout cas, au niveau des populations rurales, il est l'homme qu'il faut et l'homme qui doit conduire l'Ouganda jusqu'à grande évolution. Il a lancé des projets en désordre parce qu'il a lancé des projets de construction de pétrole. Il a lancé beaucoup de projets et vous savez que son grand opposant décide et pratiquement de fenestrer, il n'a plus assez de poids pour résister. Il passe pratiquement comme le sauveur de l'Ouganda.
Alors, le sauveur de l'Ouganda, ce qui veut dire que l'opposition a du pain sur la planche?
L'opposition a du pain sur la planche. L'opposition n'a pas gros chapitre. À un moment d'ailleurs, l'opposition, on a semblé croire que l'opposition devait sortir de la bourgeoisie militaire. Là aussi, il a le contrôle de la situation avec son officier qui est maintenant bien placé, qui a mis le sien. En fait, il a effacé la vieille équipe avec laquelle il était dans le maquis et l'opposition a du mal à émerger. Donc, vraiment, les opposants en Ouganda ne savent pas s'affirmer devant la population qui pense dire que M. Venu, c'est l'homme qu'il faut.
Quel est donc le sort de l'opposition en Ouganda? Est-ce qu'elle est beaucoup plus libre qu'ailleurs ou est-ce qu'elle se retrouve un peu face à un régime un peu trop fort?
Bon, c'est un régime fort et comme on dit, c'est le patrimoine d'une main de fer dans de grandes velours. C'est un régime fort qui peut contrôler pratiquement toute la situation, mais qui lâche certaines choses en donnant l'impression qu'en fait, tout le monde est libre de faire n'importe quoi. Et là, il ne sert pas trop pour tous les services, mais il essaie de donner l'impression qu'en Ouganda, il y a la liberté. Bon, c'est vraiment la démocratie, mais bon, le parti, son parti est très fort, il a ouvert l'espace à d'autres partis, mais qui n'ont pas pignon sur rue, quoi. Et là, il peut aller jusqu'à sa mort.
C'était Kibel Beloka, directeur de publication du journal Les Coulisses dans l'Est de la RDC. Et dans une petite ville du sud du Niger, musulmans et chrétiens pris dans une même concession depuis plus de 60 ans. Une cohabitation qui se vit dans la plus grande harmonie et que nous fait découvrir Haruna Maman Bako. Le récit est d'Irene Herman Ongbo.
Marché de Berlin Kouni dans la partie sud du Niger. Ici, chrétiens et musulmans cohabitent dans le respect mutuel de leur religion. 98% des habitants de Berlin Kouni sont musulmans, mais cela ne les empêche pas de partager leur cadre de prière avec les fidèles chrétiens. El Hadja Oumarou aussi, ce fidèle musulman, s'en réjouit.
C'est vraiment intéressant d'avoir une église et une mosquée sur le même terrain, côte à côte. Les gens adorent leur Dieu dans la paix, sans conflit.
Une tolérance religieuse établie sur le respect et la confiance mutuelle, selon Admi Pelagi, une fidèle chrétienne.
Sincèrement, nous femmes chrétiennes ici, à Birnen Koni, vivons paisiblement. Nous n'avons pas de différence majeure avec nos voisins.
Pour Rumana Tounourou, une fidèle musulmane, partager le même espace de prière permet de rapprocher les deux communautés.
Parfois, ils nous invitent à leur cérémonie. Même si nous avons une compréhension différente de la religion, cela ne peut pas nous empêcher de rester ensemble.
Mokaïla Sorka est le maire de Berlin Kouni.
Il n'y a aucun problème entre musulmans et chrétiens à Berlin Kouni. C'est notre volonté de construire sur la paix et la tranquillité.
Cette tranquillité a été parfois perturbée, notamment par de jeunes musulmans qui avaient endommagé l'église en 2011 lors de sa rénovation. Mais la crise a vite été maîtrisée par les leaders religieux musulmans, explique Malam Mahamadou, l'imam de Berlin Kouni.
C'était un petit malentendu entre certains jeunes qui a abouti au trouble. Nous ne pouvions pas tolérer ça. Cette région est connue pour la paix et l'harmonie. Tout conflit a toujours été résolu grâce à la communication. Cela permet une meilleure compréhension.
Lorsque les troubles ont commencé, j'étais optimiste qu'on aboutirait à une solution parce que les auteurs ne connaissaient pas vraiment ce que c'est d'être musulman.
Depuis cet incident de 2011, les autorités locales, les responsables religieux et les personnes ressources de divers niveaux ont travaillé ensemble pour promouvoir à Berlin Kouni le respect de la religion de l'autre. Après sa rénovation, l'église a été baptisée Notre-Dame du Dialogue afin de refléter l'engagement de cette ville à promouvoir la tolérance religieuse.
Baby, hello. J'espère que je vous dérange. Je n'ai pas pu me retenir, je sais, on s'est quitté il y a longtemps. J'ai toujours ton numéro, je le connais comme mon nom. J'hésitais mais faut être ton négro, je t'entends, je suis content. On m'a dit que t'as un enfant, je suppose qu'il t'appelle à temps. C'est ce qu'on s'était promis, jamais je n'oublie. Un fils ou une fille, si j'avais mon CDI, même si c'est fini. Penses-tu à moi dans ton lit? Me l'a bien dit, t'as la main légère, je vais t'enculer, t'es mort. J'ai des dossiers sur toi, fais pas le mec hardcore. Pas sur le phone, j'ai pas fini, petit PD. Cette femme est mienne, personne pourra t'aider. T'as voulu avoir fait un gosse, puis un frais des milliers. Tu sors tout droit de prison, qu'est-ce que j'en ai à péter?
Oh non. Et le vendredi, tout est permis. On se quitte avec Lydia Lawrence, Taken. Merci de nous avoir suivis, Lionel Gaïma à la mise en onde, Cedric Franklin à la console, Raissa Gironda à la présentation. Excellente suite de programme.
Je viens vous chercher, prépare le petit. Je suis très sérieux, est-ce que tu m'as compris? Il finit tard, face à l'après-midi. Prends tes vêtements, on lui laissera tous les ordis. Tu mérites mieux, qui est ce chien s'enlève. Ton fils sera heureux, je t'en fais la promesse.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, à Rakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisation terroriste, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres au groupe, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ses militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.